Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com pour le magazine Lille Info, comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Nous allons parler aujourd'hui de ressources audiovisuelles et informatiques avec donc une journée qui vous sera proposée le 21 mars. C'est un vendredi matin de 9h à 14h, la journée de l'ours O-U-R-S. Outils, usages, ressources, services. Pour nous parler de cette journée et du CEM d'une manière générale, le centre de ressources, on va dire, audiovisuelles de l'Université Lille 1, j'ai invité Thierry Danquini, son directeur. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour René.
Donc, cette journée de l'ours, on l'a vécue depuis plusieurs années déjà.
Oui, on l'a vécu en 2008. C'était une journée qui initiait le passage, le changement à une nouvelle plateforme pédagogique. Et c'était à l'époque Moodle 2001. Ensuite, cet événement a été réitéré en 2011 plus précisément, dans le cadre d'une inauguration du nouveau bâtiment qui accueille le SEM, le service enseignement et multimédia. Et depuis, les ours étaient toujours actifs, mais ils ne se manifestaient pas, comme d'habitude, au printemps. Et là, nous avons décidé de mettre en place plus régulièrement un événement pour annoncer le printemps.
Voilà, donc nous allons assister au réveil de l'ours le 21 mars. On a eu entre-temps la présentation sur cette antenne de ce qu'est un MOOC, et peut-être qu'on pourra d'ailleurs le rappeler, mais le MOOC à l'intérieur des TIC, T-I-C-E, ce serait peut-être bien de présenter le cadre large.
Oui, alors c'est vrai que j'en suis désolé, ça fait beaucoup d'acronymes. Ours, merci d'avoir d'ailleurs donné la signification. C'est un acronyme qui avait été trouvé par Guy Ventome, le responsable du pôle audiovisuel du SEM, Outils, Usages, Ressources, Services. Et dans le cadre justement de la matinée du 21 mars, nous allons présenter un certain nombre de dispositifs que nous souhaitons propulser, notamment le phénomène ou l'épiphénomène MOOC, qui veut dire en fait massive, alors en anglais Massive Online Open Courses, qui est une démarche historique qui a été initiée dans les années 2002 par le MIT, donc aux États-Unis, qui de proche en proche s'est rapproché de l'Europe. C'est un phénomène qui est donc connu déjà de longue date, bien avant qu'on en parle au niveau gouvernemental français. Et depuis donc juin 2013, notre gouvernement a mis en place FUN, encore un acronyme, France Université Numérique, qui tend à propulser cette nouvelle démarche de cours massivement en ligne.
Voilà, donc ces cours massivement en ligne sont produits pour partie, on peut peut-être d'ailleurs voir la proportion, par l'Université Lille 1.
Oui, alors bon, c'est un petit peu long à expliquer, mais il faut savoir que bon, ces MOOC, en fait, qui sont des cours massivement en ligne, ne font que pour partie consiste à scénariser des ressources déjà existantes et qui ont été développées, par exemple, par les universités numériques thématiques, qui, elles, ont été créées en France en 2004 environ, notamment avec Uniciel, dont Lille 1 est la présidence. Uniciel, qui est l'université des sciences fondamentales en ligne. Nous avons aussi UNIT pour les sciences de l'ingénieur, nous avons ONEJ pour les sciences de gestion, nous avons UOH pour les sciences humaines, voilà. Donc dans ce cadre-là, énormément de ressources ont été créées et les MOOC peuvent réutiliser ces ressources pour les scénariser sous la forme d'un cours explicite.
Voilà, donc ces cours sont sous forme de vidéo.
Alors justement, il y a un gros débat là-dessus parce que c'est vrai que finalement avec la vidéo on revient à d'anciennes formes de cours. Nous n'en sommes, en fait, avec les MOOC nous revivons un petit peu ce qui la manière dont on enseignait il y a 30 ans avec l'usage de la télé, finalement. On peut se servir de la télé pour enseigner. Si on ne se contentait que de mettre en ligne des vidéos, ce serait bien entendu assez mince et ce serait peut-être même une régression. Donc nous en sommes simplement au début d'une démarche. Et déjà, des MOOC expérimentent des façons diverses et variées qui ne sont pas nécessairement fondées sur des vidéos.
Donc il peut y avoir des supports images et aussi qui renvoient sur des sites internet, des ressources en fait.
Oui, alors c'est surtout, en général, dans une plateforme pédagogique et dans les TIS, on distingue bien le contenu de l'activité. On peut très bien avoir des activités pédagogiques qui nécessite d'avoir un contenu vidéo pour expliciter certaines notions. Mais on a tout de même bien deux grandes familles. Les contenus qui sont mis en œuvre dans des activités et des activités qui peuvent demander des contenus. Contenus vidéo, en l'occurrence.
Donc, on a dit qu'on allait aussi définir les TIS. C'est bien le moment.
Ah oui, les TIS, donc technologie de l'information et de la communication. Et on rajoute un E pour l'enseignement. Et le SEM, c'est un service TIS, comme il y en a d'ailleurs dans toutes les universités françaises. Nous sommes un gros service TIS, on peut le dire. Nous avons quand même nous sommes dotés d'un bâtiment de 800 mètres carrés avec un studio vidéo de 80 mètres carrés. On a pu le découvrir lors de l'inauguration. On a 20 personnels. On est en train d'ailleurs de grandir en termes de personnel, grâce à certainement des fonds de l'UNR. Les TIS, si on doit les définir, c'est dans une université, c'est mettre à la disposition des enseignants et des étudiants, en tout cas si on parle des enseignants, c'est mettre à disposition des enseignants des moyens pour produire des ressources pédagogiques, multimédia ou pas, des moyens pour diffuser ces ressources sous la forme d'un site web, sous la forme d'une plateforme pédagogique, sous la forme d'un blog. En l'occurrence, c'est bien souvent évidemment la plateforme pédagogique Moodle Lilin qui sera à nouveau représentée lors du 21 mars. Mais c'est aussi des plateformes de type web TV comme Lilin TV, qui permet de lire des vidéos institutionnelles, et des plateformes de type web TV participative comme Lilinpod, qui permet à des étudiants, aux étudiants et aux enseignants et au personnel en général, de déposer des ressources numériques.
Donc Thierry Danquigny, on l'a bien compris, le SEM est un pôle à la fois de conseils, de ressources retraitées parfois, de ressources aussi acquises par le SEM, c'est-à-dire la production propre. Peut-être sur cette production propre, elle est faite à quel moment, qui décide de la réaliser et comment on peut la visionner?
Alors, production propre, il y a deux axes sur lesquels on travaille. Il y a des demandes des enseignants, spontanées des enseignants. Il peut y avoir des demandes provoquées par des appels à projets qui permettent aux enseignants de financer des ressources. Et puis il y a aussi notre ambition toujours, d'essayer de créer des dispositifs numériques innovants. C'est ce qu'on a fait avec Lilinpod, c'est ce qu'on fait par exemple avec SEMLab, qui est un outil qui permet de faire des TP virtuels, qui est très utilisé d'ailleurs au Moyen-Orient et dans le cadre d'UNICIEL. On répond à des demandes et on essaie aussi de devancer les demandes en mettant à disposition des outils qui marchent ou qui ne marchent pas. Je ne vais parler que de ce qui marche aujourd'hui.
Justement, est-ce que vous avez un retour des outils qui sont mis à disposition? Est-ce que les gens renvoient après une info en disant « bon, cet outil-là, je l'ai utilisé, ça fonctionne très bien, celui-là, bon, je ne l'ai pas trop senti » et voir des contre-propositions?
Alors, ce qui est bien avec le web, c'est qu'on a des traces d'usage. Bon, donc d'emblée, on est en mesure de savoir si lorsqu'on met une vidéo, on voit s'il y a un pic d'activité, on voit si sur Moodle, par exemple, c'est utilisé, on voit par exemple que sur Moodle, c'est très utilisé de la veille d'examen, par contre, ou c'est utilisé très ponctuellement à la rentrée parce que des enseignants déposent des ressources numériques qui sont vues une fois, qui sont après ensuite téléchargées. Donc en général, on identifie facilement des pics d'activité. Voilà, donc on a des traces d'activité et donc ça nous permet par exemple de voir qu'on avait mis en place un réseau social qui s'appelle Blogs Lilin. On voit que ce réseau social est certainement moins utilisé que Facebook et pour cause. Donc voilà, ça fait partie objectivement des objets qui marchent, qui pourraient bien marcher, mais dont on sait qu'il y a des difficultés à l'animer. Voilà. Et donc là, on peut lire les traces facilement.
Donc cet ensemble de données accessibles, alors une partie est accessible au grand public, l'autre pas forcément, c'est ça ?
Alors, une partie est accessible au grand public sur la...
Parler d'Unicial,
oui.
Par exemple.
Hein. Alors, Unicial, justement, est basé, et les UNT en général, sont basés sur des ressources donc ouvertes à tout public. C'est une ambition de l'université que de contribuer à la connaissance.
C'est un service public.
C'est un service public. Université en ligne, par exemple, UEL, permet à des étudiants d'utiliser des ressources de façon très tranquille. Ensuite, la Web TV de Lilin, institutionnelle, qui permet de lire des conférences comme si on était à Lilin. Donc voilà, c'est un des gros avantages qu'utilisent d'autres universités. Les MOOC contribuent à ça, par exemple, contribuent à permettre de rentrer, par exemple, dans un amphi, de voir ce qui s'y passe, de voir un cours d'amphi. Mais ensuite, il y a des enseignants qui font une activité dans le cadre de leur cours. Et cette activité et ces ressources ne seront visibles que dans le cadre du cours. Il y a un côté privatif.
Alors justement,
possible.
Ces enseignants, est-ce qu'ils savent exactement ce qu'ils peuvent demander au SEM ? C'est-à-dire qu'avant de vous demander quelque chose d'un peu farfelu, ils ont une idée déjà des capacités que vous avez à proposer ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que notre vice-président TIC, Philippe Mathieu, met en place tous les ans un appel à contenu numérique en ligne, l'appel à projet CNL. Et donc dans ce cadre-là, c'est une opportunité, c'en est une parmi d'autres, pour les enseignants d'avoir un projet, de venir nous voir, et puis nous, on étudie avec eux la faisabilité. Mais régulièrement, tous les jours, le bureau de notre chef de projet TIS, Théodorina Tibar, ne désemplit pas. Il y a toujours quelqu'un qui vient demander un conseil.
Est-ce que vous avez une masse de données importante ? Comment vous la gérez ? Comment aussi vous voyez les ressources à long terme, c'est-à-dire ce que vous avez comme possibilité de stockage et aussi de traitement.
C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'au temps à l'époque du cloud, de l'hébergement sur le web, on se pose parfois cette question de l'hébergement ailleurs qu'à Lilin et aussi de notre capacité à pouvoir gérer des téraoctets, des milliards et des milliards d'octets stockés chez nous. Donc ça, c'est notamment en termes de vidéo, puisqu'on stocke en plusieurs formats, donc c'est très lourd. Jusqu'à présent, on a la chance d'avoir une université qui soutient les TIS. Donc, on a un budget qui nous permet de renouveler le matériel, mais on a aussi parfois des arbitrages à faire. On peut stocker, supprimer des choses, mettre à jour. Ça nous oblige à une gestion très rigoureuse, même si on a une capacité de stockage assez impressionnante. Il suffit de visiter la salle serveur du CRI pour se rendre compte de notre capacité de stockage.
Alors, au-delà de cette salle du CRI qui n'est pas forcément accessible non, au grand pas, public,
oui, oui.
il y a donc cette journée du 21 mars où on pourra avoir une idée un peu plus concrète des choses en allant vous rendre visite au SEM qui est dans l'avenue...
Paul Langevin.
Paul Langevin.
Hein. Il y a un totem. Qui... Voilà. On a toujours un petit peu de mal à le trouver, mais...
C'est en face du gymnase, en fait.
Oui, c'est en face du Hall Valin, oui.
Ouais.
Oui, il y a une application qui a été développée par Jean-Claude Tarby qui s'appelle U-Campus, qui permet de localiser tous les bâtiments.
Bon. C'est bon signe. Et donc, de là, bien, vous descendez ce petit trottoir, cette allée hein, qui arrive au SEM. En général, la porte est ouverte, d'ailleurs, hein, la première porte.
Oui, 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 tout à fait.
Et là, ce sera portes ouvertes.
Et là, ce sera portes ouvertes, d'autant plus.
Voilà. Donc, l'occasion de rencontrer qui le 21 mars ?
Alors, il y aura plusieurs ateliers. Il y aura justement, un atelier MOOC pour pouvoir échanger avec les enseignants sur ce sujet-là, répondre à des interrogations, comprendre en fait l'articulation entre MOOC et UNT. Donc, ce sera un atelier. Il y aura un atelier qui parlera de l'ILIMPOD dans sa nouvelle version, car on va présenter la nouvelle version de l'ILIMPOD. Ce sera animé par Nicolas Kahn. En plus de l'ILIMPOD, on va présenter aussi un enregistreur de cours qui permet s'enregistrer en vidéo avec en même temps le défilement du diaporama. Il y aura aussi une présentation des nouveautés de Moodle. Nous allons présenter en fait le nouveau design de Moodle pour la rentrée prochaine. Je rassure les auditeurs, il ne va pas y avoir de révolution comme on a déjà connu, mais ce sera présenté par Théodorina Tibar et Sylvain Gillot. Il y aura aussi des dispositifs numériques qui seront présentés par des membres de l'équipe. Et bien sûr, l'équipe aussi vidéo sera là pour répondre à toutes les questions qui se posent autour de la vidéo.
Qui est a priori visé en termes de public ? Les enseignants, bien sûr, mais aussi qui ?
Alors, les enseignants et les personnels, en fait. Parce que sur la Web TV, un étudiant et tous les personnels peuvent déposer des ressources vidéo. Donc, tout le monde est concerné. Mais il faut reconnaître que ce sera quand même assez orienté cours et enseignement en ligne. À ce propos, j'oublie un atelier, l'atelier Scénarii. Qui sera un atelier de création de ressources pédagogiques animé par Franck Rouzet.
Alors, justement, avant de se rendre à cette journée, donc du 21 mars de 9h à 14h, premièrement, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Et deuxièmement, avant d'y aller, qu'est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, sur le site web de l'université qui pourrait déjà sensibiliser les gens avant d'y aller, comme ça ?
Voilà,
une sorte...
Vous voulez que je fasse du teasing ? Bon, déjà, nous avons le site du SEM.
Mm-hmm. On peut donner un petit peu le sigle pour arriver.
Alors, c'est se2m.univ-lilin.fr.
Voilà.
Pour voir l'étendue des productions, on peut aller aussi sur un site qui permet de diffuser des nouvelles en ligne qui s'appelle Scoopit, comme Scoop, mm-hmm. Scoopit. Il suffit dans un moteur de recherche de taper Scoopit SEM et ça vous permettra de lire en fait l'ensemble des productions du SEM. Bah de visiter la Web TV Lilin TV, facilement trouvée dans un moteur de recherche, ainsi que l'ILIMPOD. Quoi qu'il en soit, une invitation sera lancée avec une inscription pour nous permettre de calibrer un petit peu l'événement. Parce qu'en fait, nous souhaitons faire ça dans nos locaux, sans modifier nos locaux. C'est-à-dire sans ajout de chapiteaux, donc on aura forcément un nombre de places limité. Mais nous faisons un événement porte ouverte avec une répétition des ateliers par deux fois durant la matinée. Donc le principe est l'entrée permanente, entrées, sorties permanentes.
Voilà, donc l'université abrite ce lieu ressource. Ce lieu ressource est ouvert sur le monde, on peut le dire. Hein.
Il est ouvert sur le monde.
Qu'est-ce que vous avez parfois comme retour du monde ?
Ah, comme retour du monde. Nous travaillons, nous travaillons avec le continent africain. Nous avons en fait une ouverture sur le monde grâce aux UNT, essentiellement.
Donc UNT, on rappelle ?
Oui, Université Numérique Thématique, et principalement avec Uniciel. Par exemple, grâce à Uniciel, notre version Lilin Pod, qui va évoluer en version 2, va être installée à Madagascar, à l'université d'Antananarivo. Mmh. Ça fait partie de notre vocation aussi à faire du transfert de compétences. Il en est de même pour SEM Lab, par exemple, qui est une application qui est installée dans différentes universités au Liban, en Centrafrique. Nous allons aussi avoir des interventions en Haute-Guinée. Donc il y a effectivement une ouverture sur le monde pour aider des universités virtuelles à se constituer sur le continent africain.
Et puis on m'a dit aussi que les centres culturels français étaient intéressés, donc que ce soit en Chine ou au Canada, ça intéresse.
Oui, ben, c'est vrai qu'on a très peu de contacts par contre chinois. Par l'intermédiaire du laboratoire Cyrel Trigone, on peut avoir des contacts avec le Canada, mais la Chine, pas encore. Si vous en avez, René,
c'est clair.
Je compte sur vous.
Voilà, donc on rappelle cette journée, donc OURS, O-U-R-S, Outils, Usages, Ressources, Services, organisée par le SEM, le vendredi 21 mars de 9h à 14h, donc au SEM, boulevard Paul Langevin, en face donc de cette salle de sport, Hall Valin, voilà.
Entre autres au JPO, par exemple.
Ah oui, c'est vrai. Et donc, donc le public est attendu vers 9h. Est-ce qu'il faut s'inscrire ?
Justement, on va envoyer un formulaire d'inscription. On ne s'y prend pas très tôt à l'avance parce qu'on a une charge de travail, comme tout le monde, très importante. Et donc, c'est assez dur de mener un événementiel et en même temps la production et la satisfaction des utilisateurs.
Le programme est sur le site ?
Pas encore. Pour information, on le finalise demain matin.
Ben voilà. Merci beaucoup. Donc,
merci à vous, René.
Et bonne journée. À bientôt pour l'Ours 2014.
À bientôt. Au revoir.
La valse des livres.
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 Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, Radio Campus et l'espace culture de l'Université de Lille 1 vous invitent à participer à la valse des livres du 18 au 19 mars. Venez prêter votre voix à des textes choisis que vous avez envie de faire entendre à Radio Campus Lille. Inscription à campus@campuslille.com.